something about it.
Oh, yes, I can. Metamorfose. Metamorfose. Bonjour, vous écoutez le 16e numéro de Métamorphose sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, c'est Philippe Oswald de l'association La Plateforme qui co-animera l'émission avec moi. Bonjour Philippe.
Bonjour Alima.
À la chronique, Nathalie Moncel.
Bonjour.
Bonjour Nathalie. Comme c'est le dernier numéro de la saison avant les vacances, on a eu envie de vous parler de travail. Plus précisément, on a eu envie de vous parler des cheminements, des mutations et des transformations dans nos rapports au travail. Pour en parler sur le plateau, nous accueillons Jean-Robert Vialet, réalisateur notamment du documentaire « La mise à mort du travail » sorti en 2009, Mélanie Grivard, coach, et Fabrice Nicole, cofondateur de la coopérative d'activité et d'emploi Prisme. Et puis nous entendrons les témoignages de personnes qui, à un moment donné, au croisement d'un chemin, ont fait des choix professionnels privilégiant le sens, la cohérence et l'épanouissement. Mais pour commencer, j'accueille Jean-Robert Vialet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire « La mise à mort du travail », un triptyque qui montre comment la course au profit maximum qui règne dans certaines entreprises vient heurter jusqu'à la destruction les femmes et les hommes qui y travaillent. Est-ce que vous pouvez nous préciser les conditions de réalisation de ce documentaire ?
Alors, ce documentaire avait une particularité, c'est qu'on s'est dit dès le départ, avec la petite équipe qu'on était pour le faire, que ce qu'on voulait faire, c'était une immersion à l'intérieur des entreprises mondialisées, sans caméra cachée, sans masquer notre présence. Donc, et l'idée, c'était vraiment d'y passer du temps. Donc, c'est un film qu'on a, c'est un triptyque, c'est trois films d'une heure qu'on a mis presque 3 ans à faire, dont 2 ans de tournage in situ à l'intérieur d'entreprises mondialisées, avec comme particularité aussi qu'on voulait pas être dans des entreprises, grosses entreprises à affaires, etc. On voulait être dans des entreprises mondialisées, dans lesquelles on rencontre effectivement les méthodes de management modernes et tout ce qui se développe dans le monde du travail, mais sans que ce soit caché par les affaires. Donc des entreprises lambda, normales, sans intérêt a priori, sans intérêt sauf la possibilité effectivement d'y voir, on va dire, les grands stéréotypes, les grands mouvements, les grandes tendances de ce qu'on peut rencontrer dans le travail aujourd'hui quand on est un salarié parmi des millions d'autres.
Et comment vous êtes présenté ? Vous êtes présenté en disant que vous faisiez un documentaire sur le management ?
Je présentais les choses, bon j'ai mis plus d'un an à convaincre des chefs d'entreprise de nous accueillir, c'est très très long comme travail. J'ai mis longtemps à construire le discours face à eux et puis à un moment donné j'ai commencé à me dire mais il faut que je joue le discours de vérité. Les entreprises ont effectivement face à des petits journalistes ou documentaristes qui sont toute petite équipe. Moi je travaille quand je fais un film on est 3 en tournage, donc on paraît pas gros, pas très puissant. Donc face à une entreprise mondialisée, face à un grand patron qui a 20, 30 000 salariés dans ses équipes, sous ses ordres, j'ai assez vite joué la carte de la transparence en disant, j'arrivais, donc je me renseignais sur l'entreprise en me disant, j'arrivais comme par les syndicats, par différents biais, et puis j'arrivais, j'allais voir le patron, je leur disais, le climat social chez vous est pas génial, hein, c'est pas formidable, hein, c'est un peu compliqué, mais en même temps c'est compliqué de gérer des boîtes comme les vôtres, et on comprend, etc. Mais est-ce que vous pourriez pas nous l'expliquer, nous montrer à quel point c'est un enjeu complexe pour un chef d'entreprise, pour des équipes dirigeantes, de mener un bateau comme celui-là, montrez-vous tel que vous êtes, et au fond, utilisez-nous, profitez de notre présence ici pour montrer à vos salariés que la soi-disant transparence que vous nous vendez, les entreprises en général depuis des décennies, en fait là vous l'appliquez vraiment, etc. Donc petit à petit ce discours-là finit par en séduire quelques-uns, et puis quand il y a eu une première grande boîte qui a fini par ouvrir ses portes, une deuxième s'est dit « Ah, mais s'ils le font, oui, aussi, etc. » Et ainsi de suite, et ensuite, on a réussi à convaincre un certain nombre de boîtes de nous laisser rentrer et de filmer au long cours.
Dans le volet du documentaire qui s'intitule « Destruction », il est majoritairement question de la relation entre santé mentale et travail. Pour le dire autrement, il est question de la souffrance au travail. Qu'est-ce qui provoque cette souffrance au travail ?
Alors, Effectivement, ce qui amène à la souffrance au travail, c'est, il y a des causes multiples. Parfois, c'est les causes de la surcharge de travail. Parfois, c'est des problématiques de harcèlement. D'autres fois, ce sont des problématiques de reconnaissance. D'autres fois encore, ce sont des problématiques de sens, simplement, pour le salarié qui travaille. Donc, et ça dépend effectivement du type d'entreprise. Est-ce qu'on est dans une entreprise de service ? Est-ce qu'on est dans une industrie lourde ? Voilà, entreprise de type industriel. Donc, effectivement, il y a toute une palette de souffrances. Et ce qu'on remarque, effectivement, c'est pas qu'on souffre plus au travail qu'au début du taylorisme, au début du 20e. Le travail a toujours été, entre autres choses, une cause de souffrance. Ce qu'on voit, effectivement, et ce qui est souvent la cause des problématiques qu'il y a aujourd'hui, ce sont des effets multifactoriels, des sources multifactorielles, mais en tout cas à chaque fois ça vient, et c'est de plus en ce qui amène à la souffrance sont des choses qui sont de plus en plus élaborées. Voilà ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire des méthodes de maniement du salarié dans le cadre d'un collectif au travail qui sont des méthodes de plus en plus élaborées pour essayer de l'amener là où on veut, c'est-à-dire à être au fond plus productif et plus soumis.
Ce que dit Dejour, qui est intéressant, parce que donc vous interviewez Christophe Dejour, qui est psychanalyste et auteur de la psychodynamique du travail, et donc il dit en fait la différence entre les problèmes de santé physique. Les problèmes de santé physique des salariés viennent plutôt des conditions de travail, alors que les problèmes de santé mentale viennent de l'organisation du travail.
Absolument. Oui, oui. Alors, on peut prendre des exemples très clairs. Dans un travail cadencé à la chaîne, on peut avoir effectivement la souffrance physique, ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, par exemple, qui sont liés à la répétition du travail. Ou alors, prenons ne serait-ce qu'un supermarché, les gens pratiquent abondamment les supermarchés. Il faut savoir, par exemple, qu'une caissière porte jusqu'à 5 tonnes de produits par jour avec le même bras pour le faire passer devant le code-barre. Et cette répétitivité, effectivement, dans le mouvement et la charge portée quotidiennement va produire des effets physiques sur la santé qui sont graves et nombreux. Sur la souffrance mentale, qui est extraordinairement complexe à décrypter et très présente dans le monde du travail aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus lié aux méthodes de management, c'est-à-dire des méthodes de management qui se sont développées depuis une vingtaine d'années, qui sont très élaborées et qui vont, au fond, tenter de changer l'image que le salarié se fait des rapports de pouvoir. On a très longtemps été dans des rapports de pouvoir très 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 frontaux entre les managers et les salariés, c'est-à-dire un rapport de domination très très clair. Aujourd'hui, les méthodes essaient d'être un peu plus fines, un peu moins clairement des méthodes de domination,
plus pernicieuses,
et on a donc effectivement toute une palette d'outils manageriaux qui se développent à l'intérieur de l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Ça va passer par plein de choses, des activités à l'intérieur de l'entreprise, du team building, une certaine liberté qu'on amènerait à l'intérieur de l'entreprise, etc., pour le salarié, mais qui en réalité n'ont qu'un objectif, c'est augmenter la productivité et donc augmenter le profit. C'est toujours ça l'objectif d'une entreprise, ce qui est normal. Mais donc, quand c'est plus affiché clairement, au fond, ça devient encore plus difficile à décrypter et ça peut produire effectivement des effets sur la souffrance mentale, de souffrance psychologique qui peuvent être parfois très très lourdes.
Alors Sandra Blondel de l'association Focus 21 a interviewé Benoît Babinet, ancien directeur financier de Grand Compte.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Dans une autre vie, vous étiez directeur administratif et financier pour des grosses entreprises. Vous avez fait ça pendant 19 ans et aujourd'hui, vous travaillez plutôt dans le secteur associatif. Vous avez changé complètement, vous avez changé de vie. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic en fait dans ce changement ?
Alors le déclic, au final en fait il n'y a pas vraiment eu de déclic, c'est-à-dire je ne me suis pas réveillé un lundi matin en me disant tiens qu'est-ce que je fais dans cet univers depuis 19 ans dans des grandes entreprises en direction financière. C'est plus un processus qui est venu lentement, c'est-à-dire un jour effectivement je me suis dit tiens ça ne me plaît pas ou je ne me sens pas à ma place. Et une fois que la graine est plantée en fait, là du coup la remise en cause commence. Et puis au bout de 3, 4, 5 mois de questionnement, on remet en cause beaucoup, beaucoup de choses.
Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas ? Parce que j'imagine plein de gens qui se posent des questions, mais qui ne franchissent pas forcément le pas du changement.
Alors franchir le pas, ce n'est pas évident du tout. Moi, ça a été plus un processus où à un moment, ce franchir le pas est devenu inéluctable pour moi à titre personnel. C'est-à-dire en gros, je ne me sentais absolument plus à ma place et c'était presque une question de... de survie personnelle, psychologique, où c'était un environnement qui ne me correspondait plus du tout, ni humainement, ni philosophiquement, ni sociétalement.
Et donc du coup, par exemple, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette reconversion ?
Alors, énormément de choses, hein, puisque donc j'ai passé 19 ans dans un univers très normé, très codé, de grosses entreprises, grandes boîtes, grands groupes.
Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple ?
Dans cet univers-là ?
Oui.
Alors, j'étais directeur financier, donc c'est très normé. Hein, donc, on a des costumes, des cravates, on prend des avions, on est dans des conseils d'administration et on prend des grandes décisions sur plusieurs centaines de millions d'euros avec une finalité qui est quand même la maximisation du profit et qui, au bout d'un moment, commence à poser beaucoup, beaucoup de problèmes.
Et du coup, cette transition, donc vous avez dit que c'était plutôt un processus de transformation qui vous amène où aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Alors, qui m'a amené donc à quitter cet univers il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, donc je suis installé à mon compte. Et donc, je travaille avec le tissu associatif de l'économie sociale et solidaire. Donc, en gros, la moitié de mon temps, je m'occupe pour quelques associations de tout leur cycle administratif et financier. Et l'autre partie de mon temps, je suis consultant, formateur, accompagnateur en gestion financière pour des associations, des compagnies de théâtre, des associations d'agriculture biologique, tout ce secteur varié de l'économie sociale et solidaire.
Et au niveau du vécu, du ressenti, comment ça se passe maintenant pour
Alors,
vous
c'est magnifique. C'est-à-dire, en gros, je fais le même travail que j'ai pu faire pendant 19 ans. C'est-à-dire qu'un modèle économique, c'est un modèle économique. Tout le monde a besoin de gestion financière, de gérer ses comptes, de savoir où on va, de faire des budgets, de gérer sa trésorerie. Donc, je dirais techniquement, le métier est le même. En revanche, l'environnement, le sens que ça a, pour moi, est juste extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai véritablement l'impression d'être... au service et d'accompagner des projets qui ont un sens, pour moi, dans une certaine vision de la société, très clairement.
Et ce que je trouvais intéressant quand on a préparé cet entretien, c'est que vous me disiez que vous aviez pris une année, en fait, d'arrêt, où vous avez vraiment pris le temps de cheminer et même de faire du bénévolat, en fait, pour essayer de trouver un peu des nouvelles pistes.
Alors ça, ça a été très important, effectivement, quand j'ai quitté cet univers où j'étais resté 19 ans. Hein, univers très normé avec ses codes, une aliénation très très forte aussi. Hein, cet environnement de grand groupe est très très particulier.
Et une souffrance au travail aussi, peut-être
Souffrance, pour moi, à titre personnel, pas forcément. En revanche, oui, des méthodes managériales, une philosophie de fonctionnement qui fait qu'effectivement, il y a une certaine brutalité où les gens deviennent très très vite des pions. Ça c'est sûr, oui, mm-hmm. Oui, tout à fait. Après, donc, quand j'ai quitté cet univers, je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts. En gros, c'est ça. Donc, quitter cet univers pendant 19 ans, puis se dire, bah, alors, qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts ? Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est pendant un an et demi à peu près, j'ai fait que du bénévolat dans des associations. Et c'est en fait au travers de ce bénévolat qu'il y a eu plein de rencontres et plein d'idées. Je ne sais pas, un exemple j'ai commencé à faire de la formation dans la gestion financière hein, auprès de jeunes créateurs d'entreprises qui étaient en précarité. Et je me suis dit, mais la formation, j'adore ça. Je n'y ai pas forcément pensé. Et de fil en aiguille, c'est quelque chose qui m'a passionné, intéressé. Et donc, j'ai développé tout ce volet formation au travers de rencontres, de par ce bénévolat. Oui, tout à fait.
Et un conseil que vous pourriez donner à des personnes qui ont envie de changer, mais qui n'osent pas ?
Alors, le conseil que je donnerais, enfin, ce n'est peut-être pas un conseil, en tout cas, c'est mon expérience à moi, c'est quand on sent profondément qu'on n'est plus à sa place, il faut absolument écouter ça. Il faut absolument l'écouter. Après, mettre en œuvre un changement qui est très radical nécessite, je pense, de beaucoup écouter ce qui est important dans sa vie, est-ce qu'on veut en faire ? Je pense à l'aspect financier, par exemple, qui est caractéristique quand on évolue dans ces grosses boîtes, grands groupes, à des niveaux de cadre, etc. Au final, l'argent est facilement un piège. Donc, il y a aussi besoin de se désintoxiquer de l'argent, mm-hmm. même si on ne gagne pas 3 millions de dollars, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment cet aspect-là qui est très important, de s'écouter soi-même et se dire qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est plus important de gagner 5 000 euros net par mois, mais d'être dans un environnement qui ne nous correspond pas ? Voilà.
Merci, Benoît.
Avec plaisir.
Alors Jean-Robert, Benoît nous parle d'aliénation et c'est édifiant de voir à travers les trois volets du documentaire des salariés qui parfois collaborent, adhèrent à l'engrenage de cette machine qui les broie. Des travailleurs qui, comme le dit Christophe Dejour, deviennent responsables de l'intensification de leur travail. Comment est-ce qu'on en arrive là ?
Alors, on en arrive là quand on est à des postes effectivement intermédiaires, de cadres intermédiaires, qui sont déjà des postes de cadres supérieurs, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on est, dans une énorme, comme le dit ce monsieur, le témoignage est très intéressant, on est dans une énorme machine qui vous emmène. On sait très bien ce qu'on fait parce que il faut... Enfin, ce serait innocent de penser que les gens ne savent pas ce qu'ils font dans le travail de tous les jours. Par contre, les gens mettent du déni dans leur journée, énormément de déni. C'est-à-dire qu'on y va le matin, on se dit qu'on a effectivement besoin de gagner sa vie. Quand on est cadre supérieur, on se dit qu'on veut la gagner bien. On se dit qu'on a aussi des problèmes, qu'il n'y a pas que les problèmes des premières lignes, on va dire des salariés qui sont soit sur les chaînes industrielles quand c'est une usine, soit dans les magasins ou dans les points de vente ou dans les trucs de je ne sais pas quoi, dans les entreprises de service. En tout cas, donc il y a toute une, forme de déni et l'entreprise devient un théâtre, une scène. C'est-à-dire qu'on y arrive le matin et d'une certaine manière on change de peau et quand on en reparle le soir, quand on en parle à son compagnon, à sa compagne, etc. On va dire ah oh oui, bah c'est tu sais ce monde, ces trucs, ça me dépasse. Oh, putain, c'est pas mon truc, etc. Mais dans la journée, on est complètement dans le jeu du monde de l'entreprise parce que le monde d'entreprise vous emporte comme une scène dans laquelle vous êtes un acteur de cette scène. Vous êtes effectivement un maillon. Frédéric Lordon, l'économiste et philosophe, parle en parlant de ces cadres, de maillons faibles paradoxaux. Il dit, voilà, ces gens-là, les cadres sont les maillons faibles paradoxaux de l'entreprise parce qu'ils sont coincés entre les problématiques réelles, les difficultés dans le travail, de souffrance, des salariés qui sont en bas de l'échelle, et puis la pression en haut des actionnaires. Et donc, vous avez effectivement dans ce monde-là, ce cadre financier en est le parfait exemple. Pendant 19 ans, il a docilement participé à un système qui lui-même, auquel il n'adhérait pas complètement, puisqu'il dit même qu'il n'y adhère pas, il met longtemps à en sortir. Alors qu'il se rend compte assez tôt, finalement, si je comprends bien dans son interview, qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans les rapports, effectivement, dans les rapports, on peut dire sociaux, dans les rapports de classe qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et dans le sens que ça. Donc, la majorité des gens sont emportés là-dedans, comme une sorte de rouleau compresseur, d'une sorte de secte, effectivement laïque, mais de secte sur l'entreprise. Et on le voit d'ailleurs dans plein de choses, quand on filme une entreprise de près, comme moi je l'ai fait. Vous, à côté de moi, madame, pareil, vous connaissez bien le monde d'entreprise. On voit l'entreprise, on la regarde parfois et on la voit comme une secte. Moi, j'ai assisté à des scènes ahurissantes de motivation de cadre où on réunit les salariés ensemble, où on leur fait faire des trucs insensés. On leur fait construire en Lego leur patron, le N+1, et après ils le détruisent sauvagement, etc., pour se défouler. On est avec des populations de cadres, on les fait... Non, mais vraiment, ouais. J'ai assisté à des scènes comme ça, donc je pourrais vous en citer énormément. Donc il y a tout un jeu comme ça, etc., et effectivement, on est pris dans ce jeu, parce que au fond, on est tous un peu nos propres comédiens, on est tous capables de rentrer dans des jeux, et y compris les jeux qui font de nous quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, pendant quelques heures de la journée, sont des jeux assez excitants, pardonnez-moi le terme, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà, jusqu'au jour où, effectivement, si on se pose vraiment des questions philosophiques, des questions de société, des questions importantes, des questions de sens, effectivement, on peut se dire, bah ouais, pourquoi j'adhère à tout ça ? Mais peut-être, parfois, pour un certain nombre de gens, il est trop tard pour en sortir, ou en tout cas, ils pensent qu'il est trop tard pour en sortir. Donc voilà, après, c'est pas du tout la même chose si on analyse sur, effectivement, les gens qui sont en bas, dans les rapports hiérarchiques d'une entreprise, dont les gens qui sont en bas, ils sont dans le travail, et ils vont adhérer au travail et à ce qu'on leur demande de faire, simplement parce qu'ils ont besoin d'un salaire à la fin du mois, et qu'il y a 30 ans de chômage de masse dans notre pays, et que donc l'ensemble, les salariés, en tout cas les plus petits, vivent dans la peur de ne pas avoir de travail. Ouais. Donc ils sont effectivement sous rapport de domination complet. Ouais, donc voilà.
Ouais, c'est ce que dit d'ailleurs un ouvrier en disant le CDI c'est tellement rare aujourd'hui. Ah, Qu'est-ce que c'est le travail vivant ?
Alors le travail vivant, effectivement,
Christophe Dejour,
c'est quelque chose qui est développé par Dejour. Je n'ai pas la brillance intellectuelle de Christophe Dejour, qui est vraiment sans doute effectivement une des personnes qui a le plus et le mieux écrit et qui a ouvert énormément de pistes sur la question du travail en France, sur la réflexion sur la question du travail et notamment du management. Mais donc Dejour, ce qu'il essaye d'expliquer depuis 30 ans et ce qu'il développe, c'est de dire que au fond le travail n'est pas qu'un système d'aliénation. Il l'est, entre autres. Mais il est aussi une formidable possibilité de la mise à l'épreuve de soi-même. Par le travail, il y a possibilité, il devrait, en tout cas, dans un monde idéal, le travail devrait être ce qui nous permet de nous mettre à l'épreuve de nous-mêmes, ce qui nous permet de penser contre nous-mêmes, ce qui nous permet de nous développer, ce qui nous permet de nous épanouir, entre autres choses, parmi d'autres choses dans la vie que sont la vie ailleurs, les autres vies qu'on a ailleurs quand on n'est pas dans le travail. Donc voilà, donc le travail vivant, c'est ça. Et effectivement, toute la question aujourd'hui, elle n'est pas simplement, au fond, dans nos sociétés, la question de l'augmentation du profit, qui est une réalité pour les entreprises, la maximisation du profit, nous disait la personne qui était interviewée juste avant dans le petit extrait que vous avez diffusé. Mais c'est aussi pour une société, en tout cas si on veut faire société et qu'on veut que le travail participe à ça, c'est aussi la question qui se pose, c'est effectivement comment développer des méthodes d'organisation du travail, et c'est là-dessus le travail de jour, qui pourraient, au fond, être moins destructrices pour l'individu et plus productrices, pas seulement de profit, aussi de profit, mais également de sens et de développement personnel.
D'accomplissement
personnel, etc. Mmh. Donc le travail vivant, c'est pour deux jours, c'est ça, cette idée que par le travail, on pourrait faire société.
Merci Jean-Robert. Une dernière petite question. On peut voir sur le site d'Arte votre dernier documentaire, Étudiants, l'avenir à crédit. Le documentaire dévoile le processus d'endettement des étudiants pour pouvoir poursuivre leurs études et comment le droit à l'éducation devient un droit au crédit. Est-ce que ce n'est pas une façon de préparer les étudiants à l'aliénation et au rapport de domination qu'ils risquent de retrouver par la suite dans certaines entreprises ?
Absolument. Alors c'est vrai que voilà, le travail, quand on regarde une entreprise en France, une entreprise aux États-Unis, une entreprise aujourd'hui en Chine, on retrouve quand même des invariants dans les méthodes de management, puisque les méthodes de management qui sont pratiquées sont les mêmes à peu près partout. Maintenant, c'est très uniformisé, c'est très globalisé. Et donc, j'ai regardé à un moment, je me suis dit, mais ok, toutes ces questions qu'on se pose sur le travail depuis 10-15 ans, qui sont maintenant vraiment une des grandes questions de société, qu'est-ce qui se passe du côté des étudiants et pourquoi ce phénomène, pourquoi on voit des étudiants se mobiliser en Chine, au Chili, au Canada, au Cambodge, sur la question des frais d'inscription, etc. Et pourquoi ces frais d'inscription seraient une obligation ? Parce que les États pourraient plus, en tout cas les États, par exemple, des pays très développés comme les nôtres, ne pourraient plus financer l'enseignement supérieur gratuitement comme ça s'est installé depuis deux siècles chez nous, dans l'université moderne, etc. En réalité, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas de problématique, en fait, à financer l'enseignement supérieur. Financer l'enseignement supérieur pour un État, c'est un investissement, c'est pas une dépense, puisque ça va produire de l'économie et du PIB plus tard par le biais des gens qui sont formés. Sauf qu'il y a un autre agenda derrière l'idée du payant, de l'installation du payant, qui est un phénomène, je le répète, qui n'est pas encore installé partout, qui n'est pas tout à fait installé en France encore, mais c'est frémissant aujourd'hui, effectivement, et qui s'est développé énormément, le payant en Angleterre, puis dans 19 pays d'Europe, les frais, juste pour l'Europe, 19 pays en Europe, les frais d'inscription se sont installés ou ont augmenté dans les 5 dernières années. C'est simplement qu'en réalité, il y a cette idée de l'économie du savoir, c'est-à-dire de transférer... on n'est plus dans le savoir pour le savoir, on demande au savoir aujourd'hui de produire de l'économie. On met le savoir au service de l'économie, comme on a mis dans le travail l'homme au service de l'économie, et pas l'économie au service de l'homme, dans les discours qu'on est dans. Voilà. Donc voilà, ce qui se passe, c'est un glissement petit à petit, et l'idée qu'effectivement, en endettant les étudiants, on va rendre les étudiants beaucoup moins subversif au fond, beaucoup moins créateur, beaucoup moins créatif, moins révolutionnaire, et que la première préoccupation d'un étudiant, ce sera, une fois endetté, de rembourser sa dette. Ce sera en tout cas sa première obligation, même pas préoccupation. Et quand il aura ça comme première obligation, sa première préoccupation, ce sera de trouver un travail et de s'insérer dans le système économique tel qu'il est, sans le remettre en cause.
Merci beaucoup Jean-Robert Vialet.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Hé, patron, prends ça dans ta trompe. Du dentifrice. Tout son n'en veut plus de vos virements de radin. On n'en veut pas de votre putain de smic à la con. On n'en veut plus de vos miettes. On ira cultiver la terre, ou bouffer des racines, ou crever sous la lune. Oh, ce qu'on fera, peu importe, et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre bulletin d'abonnement à la misère, vous pouvez vous le rentrer dans le coccyx. Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet, tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation. On fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens? On prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission. Vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
C'était Démission du groupe Les Villards. Et Philippe Oswald reçoit à présent Mélanie Grivard.
Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes coach et en tant que coach, vous accompagnez ces personnes qui décident de changer, de prendre ce risque de la transition. Et vous êtes vous-même dans un parcours de transition permanent, puisque à l'origine vous êtes comédienne, puis auteur, puis metteur en scène, et puis un jour vous décidez de rencontrer le monde de l'entreprise en essayant d'importer un peu ces outils de l'écriture et de la créativité sur la thématique et sur les chantiers de la souffrance au travail, puisque ça devient légiféré et que les entreprises ont le devoir de se préoccuper de ces questions.
Tout à fait.
Et à cette occasion, lors de ces actions ponctuelles, vous rencontrez des personnes qui viennent vous voir, qui vous font part de leur mal-être plus profond. Et c'est ce qui vous décide, vous, de vous former au métier de coach pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce qu'elles choisissent de vous témoigner. Alors peut-être première question, qu'est-ce que c'est que ce métier de coach? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est différent de la thérapie? Si oui, en quoi? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on...
Alors oui, c'est très différent de la thérapie. Le métier de coach pour moi, hein, je vais le définir parce que je pense qu'il y a plein de manières de le pratiquer. Tel que moi je le pratique, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement de la personne à faire émerger son propre désir, son propre besoin, ses propres rêves. On va pas, alors la question de la thérapie on peut l'évacuer un petit peu rapidement, c'est-à-dire que moi je m'occupe pas des causes de la souffrance et des causes de l'individu, enfin, de son histoire. Bien sûr, si ça émerge et s'il y a un lien, je peux l'accueillir, mais je vais pas le traiter. Les gens ils viennent me voir parce que un peu comme ce monsieur Babinet qu'on a entendu tout à l'heure, à un moment ils se disent mais ça a plus de sens, ou je me sens pas utile, ou c'est pas ça que je veux faire. Et comment je peux faire autrement? Et qu'est-ce que je peux faire autrement? Et souvent, c'est une grande page blanche. Donc moi, c'est là où je rejoins mes outils d'écriture, de théâtre, etc. C'est comment leur faire d'abord émerger, dessiner des pistes possibles. Et puis après, il y a une deuxième phase d'accompagnement qui est celle de, et maintenant, une fois qu'il y a des désirs, une fois qu'il y a des possibilités, une fois que j'ai vu aussi quelles sont mes compétences, celles que j'ai thésaurisées dans mon activité professionnelle, mais aussi celles que j'ai développées dans ma vie familiale, amicale, personnelle, de loisirs, etc. Bon, quels sont mes goûts, hein? Il disait à ce monsieur qu'il avait expérimenté la formation, qu'il s'était dit, tiens, formateur, en fait, j'aime ça, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a dégagé comme ça de la masse plein de possibles, il y a une deuxième phase d'accompagnement qui est celle du plan d'action. Et maintenant, comment on fait concrètement? Comment je me professionnalise? Quel statut j'adopte? Quels sont les chemins à prendre? Donc, mon métier, pour moi, c'est de, d'accompagner les gens un pas derrière. Je ne sais pas la place de l'autre. Par contre, je suis là pour éclairer. Et puis, ben, s'il va tout droit, lui dire, tiens, peut-être à droite, il y a un truc. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas? Ok, voilà, à gauche, tiens, un virage. Et moi, j'ai pensé à ça. Peut-être aussi parfois d'éviter aux gens d'aller dans le mur. Voilà, c'est vraiment un travail de maïeutique, de questionnement, d'effet miroir. Je ne suis pas quelqu'un qui conseille, je ne sais pas à la place de l'autre ce qui est bon pour lui. Par contre, je l'aide à faire ses choix. Voilà.
D'accord, et du coup, avec cette expérience que vous avez avec toutes ces personnes, est-ce que vous observez des tendances un peu générales? Qu'est-ce que les gens ont besoin de quitter, ou de quoi ils n'en peuvent plus, vers quoi ils ont envie d'aller? Est-ce qu'il y a des choses quand même que vous ressentez qu'on pourrait caractériser comme étant des tendances de fond?
Oui, mais qui vont rejoindre complètement ce qui s'est dit dans cette première partie d'émission, c'est-à-dire que il y a plusieurs phénomènes, des phénomènes de souffrance, et de dire à un moment, c'est stop, ras-le-bol, je peux plus encaisser. Donc là, on est plus sur des gens qui ont des burn-out, quoi. Voilà, un truc où maintenant, c'est plus possible. Donc il y a l'urgence de changer, il y a des choses plus en douceur. En tous les cas, c'est au centre de ce que moi je vois, c'est se sentir utile, avoir du sens dans ce que je suis en train de faire. Je citais, quand on a préparé l'émission, Nicole Aubert et Christophe Dejour qui ont commis ensemble un certain nombre d'ouvrages, et où à un moment ils comparaient les gens dans les grandes entreprises comme ça à des boulangers qui verraient jamais le pain cuit. Voilà, il y en a un qui amène la farine, l'autre amène l'eau, et puis l'autre il pétrit, puis machin, mais en fait on voit pas le sens et on voit pas ce que ce qu'on produit. Donc il y a une grande, grande frustration de ça aussi. Donc après, les gens qui viennent me voir pour que je les accompagne, c'est des gens qui décident de quitter souvent et de se mettre dans l'indépendance, ou des gens qui sont déjà indépendants, qui ont déjà franchi le pas et puis qui ont besoin d'aide pour trouver plus de ressources dans la polyactivité. Donc voilà, qui vont dire, moi aujourd'hui je sais faire ça, et je fais ça, mais c'est pas assez pour vivre, parce qu'il y a aussi la question quand même de l'argent, on y revient quoi, hein. Il faut quand même payer son loyer, manger, voilà. Et c'est, les gens ils viennent parce qu'ils veulent s'épanouir, parce qu'ils veulent retrouver du sens, parce qu'ils veulent de l'autonomie, parfois parce qu'ils veulent aussi quitter des méthodes de management justement qui deviennent insupportables, parce que tout ça, et puis parce que, au-delà de l'épanouissement, et j'aime beaucoup ce que dit Monsieur Dejour sur se mettre à l'épreuve de soi dans le travail, mais il y a aussi la réalité économique. Donc ça fait peur. Et comment je franchis le pas, c'est aussi des choses qui ont commencé à être évoquées là. Voilà, comment je franchis le pas et comment je fais en sorte que je puisse à la fois, moi, me respecter, respecter mes valeurs, que ce que je fais ait du sens, me sentir éventuellement utile, et en même temps de gagner ma vie. Donc après, il y a des gens qui peuvent devenir agriculteurs, des gens qui font des bijoux, il y a des gens qui deviennent formateurs, et des gens, voilà, le type de métier vers lesquels ça va, mais c'est beaucoup quand même de l'entrepreneuriat, de la micro-entreprise, de l'autonomie, éventuellement en réseau, en maillage, en collaboration, mais il y a ça aussi, je crois, au cœur, c'est retrouver de l'autonomie, beaucoup.
Alors justement, sur ces périodes de changement, de transition, etc., on sent bien qu'il y a toute cette tension entre à la fois la quête de sens et puis l'insécurité, y compris matérielle, que ça peut procurer. Du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner à faire cette espèce de saut dans l'inconnu? Comment lâcher ce qu'on connaît, ce à quoi on s'accroche, même si on c'est devenu complètement insatisfaisant, mais sans savoir par quoi le remplacer, parce qu'en face, il y a un peu un vide. Donc, est-ce qu'il y a un processus pour ça? Et quelles sont les ressources que les personnes vont chercher? Et où est-ce qu'elles vont chercher ces ressources pour finalement s'inventer autre chose qui n'existait pas encore et qui puisse prendre la place de ce qu'il faudrait lâcher pour passer à autre chose?
Alors, je n'ai pas de réponse générale, parce que c'est vraiment le propre aussi de mon métier, c'est d'accompagner les gens dans ce qu'ils sont, dans leur individualité, dans l'étrangeté de leur parcours. Donc, il n'y a pas de méthode, mais c'est... justement, une fois que... c'est la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout lâcher d'un coup puis se jeter dans le vide. Ça n'a pas de sens. Donc, on fait émerger des possibles. Et puis après, les gens vont aller chercher dans leur réseau amical, professionnel, dans ce qu'ils sont, et puis mettre en place une première chose. Ça peut être... très graduée. Il y a des gens qui vont se mettre à 80% pour développer une activité à 20% de leur temps de travail, en fait, qui leur prend d'ailleurs un autre plein temps parce que c'est un investissement affectif, émotionnel, personnel et temporel énorme. Et puis qui progressivement peuvent lâcher parce qu'ils ont mis en place des choses. Ou il y a des gens qui sont venus me voir, me disent, j'ai envie de changer, etc. Et puis au bout d'un an, ben, oui, ce qu'ils voulaient faire, c'était clair. Il y avait un temps de professionnalisation assez long. Il y avait des nécessités économiques qui faisait que c'était pas possible maintenant, mais qui continuent à construire leur projet, et puis peut-être qu'ils reviennent me voir ou pas d'ailleurs, parce que parfois ils en ont pas besoin. Le propre de mon métier, c'est aussi d'accompagner les gens à leur propre autonomie à l'intérieur de ça, mais qui reviennent en disant bah ça y est, maintenant je peux passer le pas. Voilà, maintenant je vais démissionner ou je vais faire une rupture de contrat, et puis voilà. Ben, bon, se servir aussi de ces ruptures de contrat conventionnelles, passer par des passages de temps de chômage rémunéré, des choses comme ça pour lancer l'activité, mais voilà, c'est des petits pas. Et...
Alors, dernière question, peut-être un peu acrobatique, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec le contexte politique actuel comme un espèce d'effet miroir quand on voit cette vague Macron là, qui vient un petit peu de nous submerger et qui est un peu une espèce de promesse justement de libération des énergies, de créativité, etc., qui à la fois balaye tous les repères anciens. Et en même temps, de l'autre côté, une adhésion très faible, finalement, on le voit avec le taux de l'abstention, etc. Donc est-ce qu'on ne retrouverait pas, au niveau de la société, cette espèce de contradiction entre à la fois envie de changer et en même temps, pas tant que ça, ça fait un peu peur, qu'est-ce qu'on va trouver derrière, etc.
Oui. Et comment changer et qu'est-ce que je lâche? On retrouve cette chose-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je lâche pour... quel est le minimum de sécurité qui va m'être assuré pour pouvoir lâcher et aller vers. Moi, c'est une question avec laquelle, vous l'avez dit, Philippe, je ne suis pas hyper à l'aise, parce que c'est vrai que je sens, à titre personnel, assez attachée à tout ce qu'on appelle les acquis sociaux, à la sécurité, etc. Et en même temps, à mon titre personnel, ce que propose Macron, a priori, ne va faire qu'aller dans mon sens. Moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours travaillé à mon compte, j'ai toujours jonglé dans la même polyactivité, et ça m'a toujours réussi, et je pense que c'est une voie d'épanouissement de l'individu. Donc, voilà, je crois que comment réinventer quand même des formes de solidarité, de sécurité collective pour permettre à chacun de trouver son chemin là-dedans, c'est... Et je pense que les gens à la fois aspirent individuellement tous à changer, être heureux, etc. Et puis il y en a beaucoup qui se confrontent à dire oui, mais on peut pas tous aller là-dedans. On peut pas tous être autonome, on peut pas tous créer sa propre activité. Il en faut bien qu'il fasse caissière et qu'il porte 5 tonnes par jour. Il en faut bien qu'il... Alors ce sera moi, quoi. Enfin, voilà. Et comment on avance sur cette question-là. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années avec les entreprises mondialisées. Monsieur a fait son documentaire, ses documentaires. Et en fait, j'ai quasiment arrêté de travailler dans ces milieux-là. Et je me suis mis au service de l'individu parce que ça me correspond mieux. C'est-à-dire que moi, je vois... Là aussi, je reviens sur la théorie des petits pas. Quand j'accompagne une personne dans sa propre évolution, je me sens... moi aussi, utile. Et je vois l'effet de ce qui est en train de se passer au niveau macro. Au niveau macro et Macron, je ne sais pas trop, là.
Merci, Mélanie.
Métamorphose. Bonjour, Cécile. Vous avez un chemin de vie vraiment passionnant qui vous a mené de la gestion des archives au maraîchage bio, en passant par l'économie sociale et solidaire. Et du coup, comment expliquer tous ces changements professionnels? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que moi, je suis allée à la fac un certain nombre d'années avec un master en sociologie des médias et de l'information. Je me suis retrouvée à bosser, mais vraiment par hasard, dans la gestion des archives. Ce n'était pas un choix, c'était juste une opportunité. Mmh. Et puis, voilà, la gestion de projet, être cadre, ça manquait quand même de sens, en fait, vraiment. Donc, je me suis dit, on va accoler à cette méthodologie de projet un volet économie sociale et solidaire. Donc, voilà, j'ai travaillé autour des dynamiques collectives, de la mutualisation. Et puis là, je me suis dit non, il y a encore un truc qui va pas. Ça manque de terrain, quoi, de faire quelque chose avec ses mains et pas juste d'animer ou d'accompagner des gens qui eux font quelque chose. Voilà. Et j'avais depuis une dizaine d'années en tête ce projet-là de maraîchage. Et je me suis dit faut le tenter. Hein, on ne sait jamais, ça peut le faire. Donc voilà, lycée agricole, maraîchage. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, avec cette activité de paysanne en fait, de faire une synthèse avec toutes les expériences d'avant. Voilà, l'organisation, la méthodo, c'est hyper important chez en maraîchage. Il faut planifier les cultures, les dates de semis, la commercialisation. Bon, ben ça, je l'ai poussé à l'extrême dans mes expériences précédentes. Et puis la partie collective, mutualisation de l'économie sociale et solidaire, qui pour moi est fondamentale, d'autant plus dans un métier comme celui de maraîchère. Ben voilà, là j'ai eu la chance de rencontrer d'autres maraîchères, on crée un collectif ensemble, on est sur l'entraide, la mutualisation, et voilà, donc tout ça mélangé, ça amène à la terre en fait, voilà.
Et du coup, donc tout ça, malgré tout, n'est pas un long fleuve tranquille. J'imagine qu'il y a des obstacles, des opportunités, des rencontres. Et ça passe aussi par la formation pour vous, quoi, à chaque fois.
Ouais, à chaque fois, j'ai voulu prendre une période d'un an pour aller me former. Donc, master en économie sociale et solidaire à Marseille, BPREA, maraîchage bio à Digne, dans les Alpes. Ça permet, en plus du savoir-faire qu'on peut acquérir pendant la formation, de rencontrer des gens, de faire du réseau, de partager tout ça et de se revoir après, de garder le lien et de faire ensemble.
Et des conseils pour des gens en fait qui rêveraient peut-être de changer complètement de vie et qui n'osent pas. Quel déclic il faut dans sa tête? Pour passer le pas.
Moi, je me suis toujours dit que c'est pas la peur qui motiverait mes choix. Donc, il faut y aller. Il faut accepter cette peur-là de l'inconnu, ce risque à prendre. Mais c'est pas lui qui veut dicter notre quotidien et nos envies. Donc, avoir peur, c'est normal, mais il faut quand même foncer en fait. Voilà.
Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en phase avec vous-même, quoi, avec ce nouveau chemin de vie dans le maraîchage.
Ouais, complètement. J'espère que ça va durer. Là, ça va être ma première saison, donc je vais voir si je vais tenir le coup. C'est un test aussi. Mais voilà, il n'y a pas de raison et il n'y a pas un matin où je ne suis pas ravie de me lever aux aurores. De faire une journée physiquement bien chargée, de me coucher à la nuit, et voilà, c'est génial en fait. C'est vraiment génial.
Merci Cécile.
Merci Sandra. Au revoir.
Et vous écoutez toujours Métamorphose sur Radio Grenouille. C'était une interview de Cécile Touré par Sandra Blondel. On comprend que Cécile Touré fonde une grande partie de sa motivation dans le partage, le travail en collectif, la coopération, la mutualisation. On comprend que ça participe du sens qu'elle donne à son action. Et justement, Christophe Dejour, encore lui, nous dit justement que l'élément décisif en matière de prévention des pathologies mentales au travail, c'est la coopération. Fabrice Nicole, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de développement et cofondateur de la coopérative d'activité et d'emploi Prisme.
Oui.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi ?
Alors, une coopérative, c'est dans le monde de l'ESS, on en a entendu parler tout à l'heure. On dépend de la loi de juillet 2014 sur le développement et l'économie dans l'ESS. On est une structure qui permet en fait de mutualiser tous les moyens. Donc on essaye de balayer un peu pour les entrepreneurs toute la partie administrative. On mutualise la comptabilité, la fiscalité. Donc on balaye tous les statuts juridiques et en fait on leur offre un cadre qui va leur permettre de s'épanouir sur uniquement leur projet, leur développement. Tout en ne se posant aucune question juridique, puisque c'est la coopérative qui les assume.
Mais ces entrepreneurs ont un statut particulier, puisqu'ils sont entrepreneurs salariés.
Voilà.
Comment est-ce qu'on fait pour avoir les deux statuts ?
Donc, en contrepartie de venir dans une coopérative, ce système-là, en fait, offre un cadre juridique très sécurisé qui s'appelle l'entrepreneur salarié. Donc, les entrepreneurs, chacun développe leur activité au sein de la coopérative. Et en contrepartie du développement de leur activité, nous allons leur proposer un contrat de salarié. Donc, on ne les bascule pas au RSI, ils restent salariés de la structure. Et donc, aujourd'hui, par exemple, une coopérative comme Prisme a, au bout d'un an, a 12 emplois créés sur la région marseillaise, dans des domaines complètement différents. Puisqu'en fait, nous, le métier, c'est l'individu qui compte et pas les spécificités. Donc, on s'intéresse uniquement aux compétences des gens. Et on est tourné vers l'individu tout en lui offrant un cadre collectif sécurisé. Voilà.
Et c'est un CDI.
Et c'est un CDI, tout à fait.
Et comment est-ce qu'on passe depuis que vous avez une première phase qui est le cap?
Oui, tout
et à fait. Comment est-ce qu'on fait pour passer du cap au contrat CDI?
Alors l'idée, en fait, quand on rentre dans une coopérative, comme je vous disais, on vient avec ce qu'on est, comme chez McDo, en fait. On vient comme on est. On propose.
Super référence.
On vient avec tout son savoir-faire, son savoir-être. Et l'idée, en fait, nous aujourd'hui, c'est qu'on se base sur deux choses pour pouvoir rentrer dans la coopérative. On ne parle pas de projet économique dans un premier temps. On parle uniquement de savoir-faire, de savoir-être. Donc l'idée, en fait, c'est que les personnes qui arrivent dans la coopérative aient une idée de la coopération, puissent travailler ensemble sur des projets un peu plus importants que leurs projets personnels. Puisque tout à l'heure, on parlait de sens, on parlait aussi de, à un moment donné, de collectif. L'idée, c'est que notre structure, étant coopérative, elle se base uniquement sur la coopération entre entrepreneurs et que pour pouvoir rentrer dans la coopérative et y rester, c'est de travailler ensemble et d'échanger sur des projets un peu plus importants que son propre projet. Donc de redonner des heures à la coopérative, de redonner des heures à d'autres entrepreneurs. Donc ces critères-là, pour nous, sont essentiels. Mmh. Donc la personne vient, elle reste dans une période de phase qui dure 3 mois, sur laquelle on va évoluer et évaluer sa personnalité. À l'issue, il signe un contrat de cap, donc qui va durer 26 mois maximum. Et à partir du moment où il commence à facturer, donc à dégager un demi-SMIC par mois, on va le salarier et on va lui proposer un contrat de CDI.
Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe?
Alors si ce n'est pas le cas, c'est comme tout à l'heure, notre devoir en tant qu'aussi économie bienveillante, c'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir dire aux gens que le projet qu'ils portent n'est pas le bon. Donc dans ce cas-là, on les réoriente. On a des partenaires, on a des gens qui sont à l'extérieur, donc on travaille beaucoup avec Pôle emploi. On travaille beaucoup avec des couveuses aussi, qui sont d'autres dispositifs qui permettent d'accompagner des gens. Donc si nous, les gens ne se sentent pas à l'aise dans le système coopératif, on les réoriente vers d'autres partenaires.
Ok. Et ils ont donc cette option au bout de 3 ans de devenir associés de la coopérative. Qu'est-ce qui se passe si ils n'ont pas envie?
Alors aujourd'hui, avant, il y avait la possibilité de rester. C'est-à-dire qu'avant, les personnes restaient autant de temps qu'ils veulent sans être associées. Depuis la fameuse loi de 2014 et donc le décret d'application de 2016, ils ont l'obligation de devenir associés. Donc si dans les 3 ans, ils ne veulent pas devenir associés, ils sont obligés de quitter la coopérative.
Et donc ils montent leur propre structure.
Voilà. Donc nous, on les aide en fait après à remonter leur structure.
Alors on a justement au téléphone Julien Marty, qui est un entrepreneur salarié de la CAE Prisme. Bonjour Julien, vous faites partie vous-même de la coopérative d'activité et d'emploi, un projet qui s'appelle Résonance Média. Et vous décrivez Résonance Média comme étant au carrefour des médias, de l'image au son, en passant par le texte. Avant d'en venir à vos activités, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez intégré la CAE et qu'est-ce qui vous a poussé à l'intégrer?
Alors oui, moi j'ai intégré la CAE officiellement d'abord par le biais d'un contrat CAP, qui est un contrat pour tester son activité en octobre de l'année dernière, donc octobre 2016. Et 3 mois plus tard, donc au 5 janvier 2017, je suis devenu un des premiers entrepreneurs salariés de la CAE Prisme. Donc ça fait pas si longtemps, mais la CAE est assez jeune. Et moi, avant, j'étais à mon propre compte dans le cadre d'une EIRL. Et ce qui m'a vraiment poussé vers la CAE, c'est tout simplement le besoin de retrouver un statut déjà qui était beaucoup plus protecteur que le statut d'indépendant, c'est-à-dire un statut de salarié avec toutes les protections sociales qui vont avec, et aussi de m'inscrire dans un projet collectif après 3 années où j'avais été indépendant et seul.
Et seul. Mmh. Justement, Fabrice Nicole nous expliquait qu'un des critères forts et importants pour intégrer la CAE, c'est de vouloir travailler en coopération et de vouloir s'investir dans le projet collectif. Vous étiez plutôt destiné à évoluer dans le monde de la finance, Julien, la finance internationale après des études spécialisées. Et puis vous avez changé radicalement de direction. Pourquoi ?
Mes aspirations personnelles, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, j'ai fait des études dans la finance, j'ai fait des stages, etc., dans les banques, je suis allé visiter des salles de marché sur Paris, etc., et la plupart de mes anciens collègues sont allés vraiment vers la finance. Moi, pour ma part, j'étais plus intéressé d'abord par la recherche, derrière ça n'a pas pu se faire Et à côté de ma vie étudiante, en fait, j'avais énormément d'activités bénévoles. Depuis l'âge de 17 ans, je faisais de la radio dans la radio associative, dans ma radio associative locale, Radio Méga à Valence. Je m'étais investi dans le conseil d'administration, etc. C'était ma passion. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai pas souhaité, à travers les différentes expériences que j'avais eues, le monde de l'entreprise, en particulier le monde de l'entreprise et le monde des banques, me convenait vraiment pas. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, puisqu'il y avait un emploi jeune dans une autre radio, toujours sur dans la Drôme où je suis, donc à Radio Saint-Ferréol à Cré, qui s'ouvrait. Donc du coup, j'ai postulé et mon profil leur convenait bien, puisque j'avais une bonne expérience radio, mais pour le coup aussi dans l'associatif, il y a besoin de gens qui maîtrisent un petit peu tout ce qui est gestion de projet, budget, etc. Mmh. Et du coup, pour le coup, mes études m'ont permis derrière, après, de pérenniser mon poste et finalement de travailler pendant 10 ans dans une radio associative comme journaliste, mais aussi et surtout, on va dire, comme développeur, chargé de développement. Voilà.
Vous développez 3 axes principaux dans vos projets, les balades sonores, les actions éducatives, les restitutions numériques de conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire qu'est-ce qui a guidé justement le choix de ces activités-là en particulier ?
Alors initialement, vraiment, quand j'ai décidé de quitter mon poste à Radio Saint-Ferréol, c'était pour aller vers la création documentaire sonore. Mmh. J'ai découvert le documentaire sonore dans le cadre de mes activités de radio associative. Ça m'a vraiment énormément plu. J'ai fait pas mal de formations avec des structures que à Radio Grenouille vous devez connaître, Phonurgia Nova sur Arles. Je me suis dit que c'était le moment. J'avais envie de me lancer. Donc vraiment l'idée initiale c'était de travailler sur des audioguides et des balades sonores et essayer de proposer des choses plus créatives avec, on va dire, une approche de radiophonique.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à allier confort de vie et accomplissement professionnel ?
Alors oui, j'arrive à lier confort de vie et accomplissement professionnel, mais pas avec les audioguides et les balades sonores. Mmh. C'est-à-dire que forcément, j'ai développé d'autres activités à côté pour tout simplement pour faire bouillir la marmite, parce que l'entrée, quand on veut aller dans tout ce qui est audioguide, etc., elle est hyper compliquée, parce qu'il y a des très grosses boîtes et qui sont un peu, omniprésentes et qui trustent tous les marchés publics, parce que j'ai dû me confronter aux marchés publics. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très compliqué, beaucoup de travail pour une possibilité de résultat souvent infime. Et du coup, j'ai réorienté mes activités donc vers les restitutions numériques. Donc ça a très très bien marché, tout simplement parce que moi, dans mes bureaux, je partageais un bureau plutôt avec des caméramans, vidéastes, avec un photographe, avec un web designer moi-même qui faisais du son et qui avait un peu la casquette journaliste éditoriale. On s'est dit, avec toutes ces compétences-là, plutôt que de faire des actes papier quand il y a des conférences ou des journées professionnelles, peut-être qu'on pourrait créer des restitutions numériques où on fait des portraits des intervenants, où on enregistre toutes les conférences et derrière on les retravaille, on les monte pour que ce soit facile à écouter après pour les auditeurs. Et tout ça partagé évidemment sur le web, etc. Donc ça a bien marché, c'est ce qui a permis vraiment de lancer l'activité. Et derrière, je suis plus allé vers l'éducation au numérique et l'éducation aux médias par le biais d'interventions dans les collèges auprès des jeunes publics. Et ça, c'est une activité qui se développe de plus en plus. Et c'est ça qui est en train de prendre le pas sur le reste, même si je trouve ça très bien d'avoir cette diversité d'activités. C'est ce qui fait que je m'épanouis, parce que finalement le pire dans le boulot c'est de s'ennuyer et donc d'avoir une seule activité. Donc là, le fait d'en avoir plusieurs, c'est parfait.
Merci beaucoup Julien, on reverra le lien vers votre site sur la page de l'émission, sur le site de Radio Grenouille. Et merci, merci Fabrice. Et c'est l'heure de la chronique de Nathalie Moncel.
Alors, la diversité des témoignages qui ont été faits dans cette émission évoque les différentes dimensions du travail. Ceci dit, fondamentalement, le travail, c'est l'action que l'homme exerce pour transformer la nature, pour subvenir à ses besoins. Et en ce sens, on pourrait dire que le travail n'a rien de spécifiquement humain, car tout organisme vivant agit sur la nature pour assurer sa survie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Ceci dit, la philosophe Hannah Arendt introduit une distinction entre le travail et l'œuvre. Alors que le travail correspond à la condition d'organisme vivant, l'œuvre correspond à la condition d'appartenance au monde. Donc dans ce sens, le travail est force, énergie, puissance, c'est le travail vivant de deux jours, c'est le travail mis en œuvre pour soi, pour les autres et pour l'ensemble de la société. Qu'en est-il dans la société actuelle ? Dans nos sociétés modernes capitalistes, le travail est inscrit dans un cadre en tant que droit et devoir, il est réglementé. C'est le travail codifié en emploi, dans le cadre du salariat qui définit le rapport de l'homme à la société. Alors que constatons aujourd'hui de ces métamorphoses du travail ? Bon, je n'évoquerai pas la raréfaction de l'emploi qui conduit à la désaffiliation sociale des privés d'emploi, comme le dit le sociologue Robert Castel. Je vais prendre des illustrations qui ont été déjà faites ici aussi, mais j'aimerais en rajouter une qui est celle de l'apparition du travail inutile, ce qu'on appelle les bullshit jobs, hein, qui ont été mis en évidence par l'anthropologue David Graeber, qui lui prend acte du gonflement d'une sphère administrative, bureaucratique au détriment des métiers productifs de plus en plus automatisés et qui souligne que dans ces métiers, il y a une aliénation de la vaste majorité des travailleurs de bureau qui dédient leur vie à des tâches inutiles, vide de sens, tout en ayant pleinement conscience de la superficialité de leur contribution à la société. Autre phénomène qui a été évoqué, celui du burn-out, symptôme de la souffrance au travail, de la perte de sens dans des organisations du capitalisme devenues paradoxantes, comme le dit Vincent de Gaulle-Jacques et les psychologues du travail, c'est-à-dire des situations absurdes, entre pression des objectifs, changement permanent, des situations que l'individu ne peut pas résoudre par son travail, comme Jean-Robert Vialet le montre, et donc qui perd confiance en lui. Hein, l'estime de soi se dissout dans les paradoxes du travail actuel. Dernière illustration, c'est ce qu'on appelle la flexibilisation du travail et son excès sous forme d'ubérisation ou de zero hour contract. Mais en fait, c'est plus exactement une flexibilisation de l'emploi avec la construction sociale que l'on détricote en espérant, comme il a été dit, libérer les énergies. Mais aujourd'hui, la question, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Il ne s'agit pas seulement de défaire un statut social et des droits afférents, mais c'est bien de se réapproprier le travail. Alors comment ? Bon, on l'a vu dans les témoignages, en revenant à la matière par exemple, mais avec une réelle maîtrise des conditions de transformation de cette matière. On a envie de voir le pain qui sort de la collaboration. Donc faire une œuvre, œuvrer, c'est-à-dire instaurer un cadre humanisé qui soit plus permanent, plus durable que la vie d'un être humain. Autre piste, sortir de ces organisations pathogènes et donc venir au statut d'auto-emploi, d'auto-entrepreneur, mais pour se réapproprier l'autonomie, on a bien vu que ces statuts n'offrent pas le minimum de sécurité pour lâcher, effectivement, échanger. Donc il manque deux dimensions dans ces propositions. D'abord la dimension collective du travail, elle a été soulignée. La dimension collective qui permet de faire des œuvres collectives, car ensemble on va plus loin, comme dit le proverbe. Alors le tiers-lieu, sont-ils l'amorce d'une transformation plus vaste ? L'économie sociale et solidaire à travers les CAE est-elle porteuse d'une telle ambition ? Quelles sont les formes collectives à inventer aujourd'hui ? Et là, on rejoint une autre dimension du travail qui, pour faire société, doit être l'objet de délibération. C'est la dimension politique du travail. Alors la récente séquence électorale a montré que nous ne sommes qu'aux prémices d'une réflexion globale, car il ne s'agit pas uniquement de penser à un revenu de remplacement, mais bien une organisation sociale qui valorise au même titre que le travail dit productif, le travail socialement utile, que ce soit celui des aidants, des coachs, celui des associatifs ou celui des étudiants aussi. Et donc, ce n'est pas élargir la sphère économique dont on parle, mais plutôt la réinscrire dans la société et ses besoins. Ce n'est pas la fin du travail, mais le retour de la vie et du plaisir au travail.
Merci Nathalie. Avant de nous quitter, quelques références de bouquins pour ceux qui veulent aller plus loin. Travailler à armes égales aux éditions Pearson de Marie Peset et Rachel Saada. Changer d'avenir, réinventer le travail et le modèle économique des économistes atterrés aux éditions Les Liens qui Libèrent. Le choix, souffrir au travail n'est pas une fatalité de Christophe Dejour aux éditions Bayard. Voilà, c'est la fin de cette émission. Maintenant qu'on a bien exploré le sens du travail, on vous laisse partir en vacances et revenir avec plein d'envie, plein d'énergie et heureux de vous mettre à l'œuvre. Merci à nos invités, à nos témoins, à Philippe, Nathalie, Jean-Baptiste à la technique. J'en profite aussi pour remercier les auditeurs de Grenouille qui nous ont soutenus et vous pouvez continuer de nous soutenir en allant sur le site et on se retrouve à la rentrée pour le 17e numéro de Métamorphose.